Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Seigneur, nous nous approchons de toi dans la confusion, selon qu'il est écrit à nous la confusion de face, à notre Dieu la justice, la miséricorde, la compassion. Nous reconnaissons que nous avons péché devant toi de diverses manières, dans nos pensées, par nos paroles, nos gestes, par omission, Dieu de grâce. Nous avons offensé ton saint nom. Nous venons te demander pardon encore ce matin. Notre espérance, c'est le sang de Christ qui a coulé sur la croix de Golgotha. Que ce sang puisse nous purifier, nous laver, nous sanctifier maintenant. Merci pour le pardon que tu nous accordes, selon qu'il est écrit à notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. Oh Dieu, Jésus, merci encore pour le pardon que tu nous accordes. Nous nous approchons de toi aussi en te présentant nos fardeaux, nos problèmes, Seigneur, nos maladies. Guéris tous ceux qui sont malades dans cette église, dans nos familles, dans le nom de Jésus. Console les cœurs affligés d'une manière ou d'une autre. Ouvre les portes pour le travail, le mariage, le voyage, les enfants et autres. Manifeste-toi que tes grâces et tes bénédictions célestes descendent au milieu de ton peuple et que tu nous fasses entrer dans notre destinée, Père de bonté. Merci aussi pour cette église. Bénis l'église, bénis les activités de l'église et tends ta main qu'il y ait un grand réveil qui change les choses, qui inonde les cœurs, qui transforme les mœurs et les comportements, qui apporte la sanctification et la crainte de Dieu. Que l'Esprit Saint souffle pour apporter les dons et les fruits de l'Esprit dans cette église. Nous te prions, Dieu de grâce, pour ce pays. Bénis ce pays et l'Afrique. Et tends ta main, Dieu de grâce et de paix. Qu'il ait la paix dans tous les coins où, Dieu de grâce, il y a des zones d'ombre, il y a des guerres et autres. Impose-toi et qu'il ait la paix qui vient du ciel. Quand tu es né, les anges ont chanté gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre. Et quand tu repartais, tu as dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Que ta paix inonde nos cœurs, inonde ce pays et l'Afrique et dans le monde entier. Seigneur, nous te prions pour toute l'Église, corps de Christ, rassemble ce matin pour te louer, pour t'adorer. Descends, qu'il se fasse des conversions de nouvelle naissance, des miracles, des guérisons, Dieu de grâce, qui viennent de ta part. Nous te prions, Père de bonté, pour la parole que nous allons écouter, cette parole que tu as inspirée à ton serviteur, qu'il soit connecté à toi et que la parole qui sort de sa bouche puisse bénir ton peuple encore ce matin. Merci pour tes bifs et pour ton amour. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Notre texte de ce matin est tiré dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 8, les versets 5 à 15 à 13. La lecture sera faite par la diaconesse Evelyne.
Évangile selon Matthieu, chapitre 8, versets 5 à 13. Il est écrit: comme Jésus entrait dans Capernaüm, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen.
Amen. Le thème de notre prédication ce matin, étonne Jésus.
Alléluia. Bien-aimés, c'est une grâce de se trouver dans la maison du Seigneur. C'est un privilège, parce que quand nous sommes dans la maison de Dieu, il déverse ses bénédictions dans nos vies en abondance. Amen. Nous avons vu ici l'histoire du centenier qui a reçu ce qu'il demandait à Jésus. Et même au-delà, parce que Jésus dit, il sera assis avec Abraham. Ceux qui sont comme lui seront assis avec Abraham dans les lieux célestes. Parce qu'il a étonné Jésus, bien-aimé. Le Seigneur veut que nous puissions l'étonner. Parce que quand nous étonnons Jésus, bien-aimé, il agit puissamment dans nos vies. Les cieux s'ouvrent et nous voyons l'action de Dieu se manifester dans nos vies. Amen. Que veut dire étonner Jésus? Jésus ici, il était dans l'étonnement parce qu'il a admiré la personne du centenier. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire à ton voisin, le Seigneur Jésus veut que tu l'étonnes à partir de ce jour? Alléluia! Le Seigneur veut que nous puissions l'étonner. Et quand nous étonnons Jésus, notre vie ne sera plus la même. Qu'est-ce que Jésus a admiré dans la vie du centenier? Qu'est-ce que Jésus admire dans nos vies, doit admirer dans nos vies? Qu'est-ce qu'il doit regarder pour être étonné? Il y a trois choses que nous voyons ici par la vie du centenier. Le témoignage. Le verset 5 dit, « Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. » Qui est ce centenier? On sait que c'était un chef de 100 soldats. Il a sur lui des responsabilités, des sujets qu'il gouverne. Mais qui est-il au fond? Ce qui est écrit ici, dans Luc, chapitre 7, versets 4 à 5. La foule des personnes rendait témoignage à Jésus de ce centenier. Dans le témoignage des hommes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Seigneur, il mérite ce qu'il te demande, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Donc cette personne témoigne de ce que le centenier est. Ils disent à Jésus, voici ce qu'il fait, voici ce qu'on voit dans sa vie. Il aime Dieu et il aime notre nation parce qu'il a bâti une synagogue afin que nous allions écouter la parole de Dieu. Donc, bien-aimé, voilà le témoignage que les autres ont donné du centenier. Quel est le témoignage que les gens ont de toi, bien-aimé? Qu'est-ce que les gens témoignent de toi dans ton quartier, à l'église, dans ta maison, au travail? Quel témoignage as-tu? Est-ce que tu peux poser ces questions à ton voisin? Quel témoignage as-tu? Qu'est-ce que les hommes pensent de toi? Qu'est-ce qu'ils voient dans ta vie? Est-ce qu'ils peuvent témoigner de toi à Jésus? Alléluia! Donc voilà, ils disent à Jésus, Seigneur, il mérite, parce qu'il fait telle chose. Les hommes voient ce qui est physique là. Ils voient ce que nous faisons pratiquement. C'est pour ça qu'ils peuvent être étonnés. Ils peuvent nous admirer. peuvent nous acclamer. Mais Jésus voit au-delà du physique. Alléluia. Lisons, bien-aimés, dans le livre de Jean, chapitre 2, versets 23 à 25. Ici, la foule suivait Jésus. La Bible dit quoi? Ils suivaient Jésus à cause des miracles que Jésus faisait. Verset 24. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Alléluia. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Amen. Tu peux dire à ton voisin, Jésus sait ce qui est dans toi. Et c'est ça qui compte pour Jésus, alléluia. C'est ça qui compte pour Jésus, ce qu'il voit dans toi. Lorsque Jésus regarde le centenier, Jésus connaît, il voit, il dit, waouh, il a admiré plutôt le centenier. Il était étonné, il était émerveillé. Parce que ce que les gens disaient du centenier, c'est ce qu'ils voyaient dans le centenier. Bien-aimé, notre témoignage physique va concorder avec ce que Dieu voit en nous. Alléluia! Il voyait que les motivations du centenier étaient conformes à ce que les gens voyaient à l'extérieur. Et c'est pour ça que Jésus était étonné. Jésus connaît ce que chacun de nous a à son intérieur. Rien n'est caché devant lui. Lorsque Jésus regarde le centenier, il voit ses motivations. Il comprend que ses motivations sont pour la gloire de Dieu. Parce que le centenier envoie, dit Seigneur, voici mon serviteur est malade, sauve-le, guéris-le. Donc il vient plaider pour son serviteur, pour son prochain. Donc il aimait son prochain comme lui-même. Amen. Et c'était une motivation juste devant Jésus. Et Jésus pouvait l'admirer. Waouh! Il aime son prochain comme lui-même. Et c'est ça que Dieu veut. Bien-aimé, aimer son prochain comme soi-même, ça demande de l'humilité. Alléluia! Il faut être humble pour aimer son prochain comme soi-même. Le centenier était un homme humble. L'humilité du centenier était aussi profonde que l'on ne peut l'imaginer. Voici au verset 9. Le centenier dit, car moi je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, il va, à l'autre viens, il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Malgré son rang social bien-aimé. Quand on part au verset 8, le centenier était soumis aux principes religieux des Juifs. Il savait que les Juifs, n'est-ce pas, quand ils entrent, un Juif va entrer dans la maison d'un non-Juif parce qu'il va se rendre impur. Donc il connaissait ça. Il dit, oh, vraiment, je suis impur, Seigneur. Mais j'ai besoin de ta grâce. Il était humilié. Il ne s'est pas servi de sa position sociale. Je suis quand même chef de 100 soldats. Je suis quand même quelqu'un de l'armée avec un grade élevé. Non, il n'a pas dit ça. Mais il a dit, Seigneur, voici ce que je suis. Il a dit au Seigneur ce qu'il était. Et le Seigneur a vu en lui de l'humilité. Est-ce que Dieu voit en toi de l'humilité ou l'orgueil? L'orgueil est un grand piège pour l'homme, pour le chrétien. Bien-aimé, l'orgueil est un obstacle qui empêche l'homme de recevoir les grâces de Dieu. Quand nous allons dans le livre de Luc 18, versets 10 à 13, deux personnes sont montées au temple pour prier Dieu, le pharisien et le publicain. Et le pharisien, il s'est tapé la poitrine. Il dit, Seigneur, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Donc, en fait, ce que le pharisien dit, c'est ce qui est excellent. Il est bien, n'est-ce pas? Il ne commet pas l'adultère. Il jeûne. Il n'est pas un voleur. Bref, en fait, il marche comme la parole de Dieu le dit. Mais quand le Seigneur dit par la suite, après qu'il ait d'abord donné l'exemple du publicain, qui n'a pas osé lever la face vers Dieu pour dire que Seigneur, je suis un pauvre pécheur, aie pitié de moi. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Pourquoi le pharisien n'a pas pu être justifié? À cause de l'orgueil. Bien-aimés, si nous faisons des choses pour le Seigneur, à cause de Dieu, nous faisons des bonnes choses, évitons de nous enorgueillir. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Et il fait grâce aux humbles. Voilà les actions qui pouvaient justifier le pharisien, mais il n'a pas été justifié devant Dieu. Mais devant les hommes, il pouvait être justifié. Mais devant Dieu, il n'était pas été justifié à cause de l'orgueil. La Bible dit, quiconque va s'élever sera rabaissé. Nous devons toujours rechercher l'humilité pour jouir des opportunités que nous donne l'humilité. L'humilité a beaucoup d'ouverture dans la vie de l'homme. L'homme a beaucoup d'opportunités quand il est humble. Dieu a mis dans l'humilité beaucoup de grâce. Regardons un peu dans les hommes de la Bible. Il y a certains qui ont eu la grâce de se repentir parce qu'ils étaient humbles, bien-aimés. David, qu'est-ce qui s'est passé quand il a couché avec Bathsheba? Et quand le prophète Nathan est venu le voir, le prophète Nathan a dit, tu as péché. Il a dit, je reconnais que j'ai péché, je me repens, que le Seigneur pardonne mon péché. Donc, le fait qu'il a reconnu qu'il a péché contre Dieu, ça l'a amené à être pardonné et à se repentir. Parce que quand on parle de repentance ici, quand on voit la suite de la vie de David, il n'a plus commis de tels péchés. Donc ça veut dire qu'il s'était effectivement repenti parce qu'il est humble, bien-aimé. Il ne s'est pas justifié, comme certains le font. Certains se justifient. Ils justifient les péchés. Que non, tout le monde le fait. Pourquoi pas moi? Non, elle est comme ceci. Donc ça fait que je fais aussi comme ça, dans le foyer. Non, on ne doit pas se justifier. Ça, c'est l'orgueil. On doit être humble. Alléluia. Est-ce que dans notre foyer, nous sommes orgueilleux? Les choses ne vont pas bien marcher. Si nous sommes humbles, les choses vont très bien marcher. Alléluia. Dans la famille, est-ce que nous sommes orgueilleux? Les choses ne pourront pas marcher. Il y aura toujours des problèmes. Si nous sommes humbles, les choses vont bien marcher. Alléluia. Parce que la grâce de Dieu se répand dans la vie de ceux qui sont humbles. Et nous voulons aussi bien aimer ceux qui ont reçu la grâce d'être libéré. Il s'agit ici de Manassé, qui était un roi qui avait entraîné le peuple d'Israël, le peuple de Juda, dans l'idolâtrie. Le Seigneur a envoyé les chefs d'Assyriens qui l'ont enchaîné et ils sont partis à Babylone avec lui. La Bible dit que Manassé s'est profondément humilié. Et le Seigneur a permis qu'il soit libéré. Il est revenu à Jérusalem. Bien, nous voyons les bienfaits de l'humilité. Cela répand les grâces de Dieu dans nos vies, bien-aimés. Et nous voyons aussi, bien-aimés, un autre aspect. Quand nous sommes humbles, c'est facile que nous puissions vivre dans les grâces de la réconciliation avec les autres. Bien-aimés, nous voyons avec Jacob. Jacob avait trompé son frère et prend son droit de naissance. Et il a fui d'aller chez Laban. Et Esaü avait dit qu'il va tuer Jacob le jour que son père va mourir. Mais quand Jacob était chez Laban, son temps est passé, il devait rentrer maintenant. Il avait peur d'Esaü. parce qu'il savait que Esaïe avec son macabre. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il s'est humilié. La Bible dit quoi? Dans le livre de Genèse 33, versets 3 à 4. Quand Esaü a entendu que Jacob venait, il a pris 400 hommes pour rencontrer David. Jacob. Et Jacob, quand il a vu Esaü de loin, il s'est humilié 7 fois. Il s'est prosterné 7 fois. Ça, c'était l'humilité. Il s'humilie devant son frère. Et pour finir, son frère l'a embrassé. Ils ont pleuré. C'était les larmes de réconciliation. Alléluia! Bien-aimés, quand nous sommes humbles, nous entrons dans les opportunités de grâce que Dieu nous donne. Cela est très important pour nous. Le centenier était un homme humble et son humilité était fondée dans sa foi en Dieu. Bien-aimés, la foi du centenier était fondée sur deux choses. La première chose ici, là, quand nous voyons le verset 8, il dit ici, « Dis seulement un mot. » C'est le centenier qui s'adresse comme ça à Jésus. « Dis seulement un mot. » Qui doit dire seulement un mot? Il s'agit ici de Jésus. S'il dit à Jésus, dis seulement un mot, ça veut dire qu'il connaissait qui était Jésus. Alléluia. Est-ce que tu connais qui est Jésus, bien-aimé? Parce qu'il connaissait qui était Jésus, il pouvait s'approcher avec assurance de Jésus. Donc, quand nous connaissons Dieu, on s'approche avec assurance parce qu'on le connaît. Et Dieu veut que nous puissions le connaître. Voilà. Il s'approche avec assurance de Jésus. Parce qu'il connaissait Jésus. Nous voyons dans le livre de Matthieu, quand Jésus demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» N'est-ce pas, chaque personne dit, « Oh, tu es un prophète, tu es Jérémie, tu es Élie, ainsi de suite. » Mais Jésus se tourne vers ses disciples. « Et vous, que dites-vous? Qui dites-vous que je suis ?» Qu'est-ce que Pierre dit? Pierre dit, « Tu es le Fils, le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alléluia. Pierre connaissait Jésus. Et cela a été révélé par l'Esprit de Dieu. Le centenier aussi connaissait Jésus. Et c'est pour ça qu'il pouvait s'approcher avec assurance de Jésus. Et lorsque Jésus a regardé le centenier, il l'a admiré. Cet homme me connaît. Il connaît que je suis le Fils de Dieu. Il connaît que je suis l'alpha et l'oméga. Le rédempteur, le bon berger, celui qui dit oui et personne ne peut dire non. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Celui qui délivre, celui qui bénit. Celui qui affranchit, celui qui justifie et personne ne peut condamner. Alléluia! Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il connaissait la personne de Jésus. Est-ce que tu connais la personne de Jésus, bien-aimé? Est-ce que tu connais la personne de Jésus? Le centenier connaissait qui était Jésus. C'est pour cela qu'il devait s'approcher. Il s'approchait avec assurance, sachant que Jésus est la solution à son problème. Bien-aimé, quand le centenier a vu que Jésus est là, et quand il avait cette assurance, il a puisé où, bien-aimé? Dans ses connaissances. Et maintenant, la deuxième chose, c'est que si nous croyons en ce que Jésus est, ça veut dire que ses paroles doivent avoir l'impact dans nos vies. Amen. Donc, ça veut dire que si je connais Jésus, ça doit entraîner l'impact dans sa parole, de sa parole dans ma vie. Et c'est pour ça que le centenier pouvait dire, dis seulement un mot. Il devait dire, dis seulement un mot. Donc si tu parles, ta parole est puissante. Ta parole a l'impact dans ma vie parce que Ta parole a l'impact dans ma vie, elle peut avoir l'impact dans la vie de celui pour qui j'intercède devant toi. Alléluia. Donc nous voyons ici, bien-aimés, la Bible dit dans le psaume 147, verset 15, « Il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse. » La parole de l'Éternel court avec vitesse. Bien-aimé, est-ce que tu crois en Jésus? Certes, tu peux connaître Jésus, mais est-ce que sa parole a d'impact dans ta vie? Ce qui montre que nous croyons en Jésus, c'est l'impact de sa parole dans notre vie. Donc, bien-aimé, si c'est que tu vas dire à Jésus, « Seigneur, je crois en toi », le Seigneur va regarder ta vie. Est-ce que ta vie reflète Jésus-Christ? Est-ce que notre vie reflète Jésus-Christ? Est-ce que quand il te regarde, il peut dire, waouh, comme le centenier, comme l'a regardé le centenier, il a été étonné? Ou bien quand il va te regarder, il va baisser le visage. Le Seigneur veut que nos vies puissent être des marques de sa parole. Bien-aimés, si nous connaissons Jésus et que nous mettons sa parole en pratique et que sa parole ont l'impact dans nos vies, nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Le Seigneur veut que sa parole ait des impacts dans nos vies. Si la parole de Dieu a de l'impact dans tous les domaines de nos vies, bien-aimés, Jésus va nous admirer. Comme il a admiré le centenier et a rendu témoignage devant tous en disant, waouh, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Parce que quand il a vu son témoignage, il a vu son humilité, il a vu sa vie, il a vu, il a compris que le centenier croyait réellement en lui. Ce n'était pas l'affaire de bouche, c'était l'affaire d'une vie que le centenier avec Jésus-Christ. En ce matin, bien-aimé, le Seigneur attire notre attention. Il veut que notre vie puisse l'étonner, pour qu'il agisse puissamment dans nos vies. Si Jésus admire notre foi, notre humilité et notre témoignage, il va réaliser des grandes choses dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent pour sa gloire et pour notre bien. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Toi qui nous montres, notre Père, que tu regardes nos vies, tu admires nos vies, tu veux admirer nos vies. Tu veux que nous puissions t'étonner, Seigneur, par notre vie, Seigneur, afin de recevoir toutes tes grâces, comme tu l'as fait dans la vie du centenier, et tu as témoigné même de lui. C'est bien ces paroles de vie, et qu'elles portent fruit pour ta gloire, par le puissant nom de Jésus que nous avons prié. Amen.